ces beaux chants de louanges et ces belles classes où nous avons pu ensemble apprendre à te connaître et connaître ta volonté, connaître ta parole. Merci pour ta parole et pour ces richesses que nous pouvons apprendre semaine après semaine. Seigneur, nous voulons te remercier pour tout, pour tes bontés, pour ta miséricorde, pour ta grâce. Tu es tellement bon et patient avec chacun d'entre nous, Seigneur. Bénis-nous ensemble ce matin, alors qu'on ouvre les pages des Écritures saintes, pour mieux connaître notre cher Sauveur, au nom de Jésus. Amen. Il y a quelques années, d'ailleurs, il y a plusieurs années, l'université Taylor aux États-Unis, à Indiana, c'est une université chrétienne. Plusieurs chrétiens et chrétiennes allaient là pour étudier. Et il y a plusieurs années, l'université Taylor était très excitée de recevoir un étudiant international, un jeune homme de l'Afrique. Et c'était rare dans ce temps-là parce que c'était avant, c'était pas habituel à l'époque de recevoir des étudiants internationaux qui allaient quitter leur pays pour venir étudier aux États-Unis comme ça. Et ce jeune homme qui s'en venait avait une belle réputation, un beau jeune homme qui aimait le Seigneur. Et l'université était très fière d'accueillir cet étudiant, très honoré parce que c'était un jeune homme brillant, avec beaucoup de potentiel. Lorsqu'il est arrivé sur le site à l'université, le président a pris le temps de venir l'accueillir, aller le voir. Et il a fait le tour de l'université, du campus et des dortoirs, de la résidence, pour faire visiter tout le site et les bibliothèques et le dortoir. À la fin de sa tournée, le président s'est retourné de bord puis a regardé le jeune étudiant qui s'appelait Sam et lui a dit, « Écoute, tu as vu tout le site, tu as vu les campus, tu as vu les dortoirs. Alors, dis-moi, dans quel dortoir aimerais-tu rester? » Et l'étudiant l'a regardé puis a répondu, « Eh bien, s'il est une chambre que personne ne veut, donnez-moi celle-là. » Le président était très surpris, très touché. Jamais dans ses nombreuses années, après avoir accueilli des milliers de chrétiens et chrétiennes, avoir entendu une telle réponse qui reflétait tellement la grâce du Seigneur à travers ce jeune homme. Ce qui ressortait de cet homme, c'était l'humilité, c'était son cœur si humble et si tendre. S'il est une chambre que personne ne veut, donnez-moi-la, je vais la prendre. Touché, le président a commencé à verser des larmes, tellement pas habitué d'entendre ça, mais il a vu en lui le caractère de Jésus-Christ. Brian Wilkerson définit l'humilité ainsi. Il dit, l'humilité, c'est de faire le travail que personne ne veut faire. C'est d'aller dîner avec l'enfant avec lequel personne ne veut aller dîner. L'humilité, c'est de prendre la tranche de pain trop rôtie, brûlée, que personne ne veut prendre. C'est de prendre le stationnement loin de l'entrée de l'église, que personne ne veut prendre. C'est de prendre sur soi le sacrifice qui s'impose sur une autre personne. C'est de prendre l'épreuve qui frappe une autre personne. Voilà l'humilité. Voilà le caractère de Christ. L'humilité fait passer les autres avant soi. L'humilité, la douceur et la compassion et la miséricorde et l'amour se met au service des autres. Et c'est exactement ce que le Seigneur Jésus a fait. Aujourd'hui, on va prendre un des passages les plus sombres du livre de Matthieu et on va y trouver pourtant l'un des passages les plus affectueux de la part de Jésus-Christ. Qui parle de Jésus-Christ. Tournez avec moi dans Matthieu chapitre 12 et j'aimerais lire une portion de ce passage-là, les versets 14 à 21. Matthieu 12, 14 à 21. Prenez le temps de trouver ce passage, un magnifique passage que nous allons voir ensemble. Matthieu 12, 14 à 21. J'espère que vous êtes là dans le passage et n'hésitez pas, si vous n'avez pas de Bible, les placeurs à l'arrière se feront un plaisir d'aller vous en porter une. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'étendra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. » Eh bien, la clé de tout ce passage se trouve au verset 18. Et c'est un titre que Dieu lui-même donne à son Fils. Matthieu 12, 18 qui dit, « Voici mon serviteur que j'ai choisi. » Les rabbins qui attendaient le Messie depuis plusieurs années appelaient le Messie qui allait venir, l'élu. C'était un titre messianique. Et verset 18 dit, « Voici mon serviteur. » C'est Dieu qui dit ça sous la plume d'Ésaïe, en prophétie, le Messie qui allait venir plusieurs centaines d'années plus tard. Il dit, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. » Il y a plusieurs titres qui sont donnés à Jésus dans la Bible, mais rien ne se compare à celui-ci. Mon serviteur bien-aimé. C'est un titre qui a été donné dans une prophétie à l'égard du Messie à travers Ésaïe et Ésaïe chapitre 42. Et c'est la clé du passage. Et est-ce que ce n'est pas intéressant que l'un des plus beaux titres affectueux que le Père donne à son Fils, mon serviteur bien-aimé, arrive au moment même où Israël prend la décision de rejeter officiellement le Messie, Jésus comme sauveur. C'est là que ça se passe. C'est là qu'il y a un point tournant dans le chapitre 12 où les chefs religieux décident de non seulement rejeter Jésus comme Messie, mais même de le faire tuer. L'un des passages les plus sombres du livre de Matthieu, alors qu'il y a un point tournant dans l'histoire d'Israël, alors même que ça fait des centaines d'années qu'on prédit la venue du Messie et que Jésus, jusqu'au chapitre 12, prouve fois après fois, par les nombreux miracles qu'il a fait, les guérisons qu'il a fait, prouve que c'était bien lui le Messie, tant attendu, préannoncé dans l'Ancien Testament. Et c'est dans ce chapitre où les chefs religieux décident de faire tuer l'élu de Dieu, le serviteur, le Messie, le Sauveur. Au milieu d'un désert, nous avons cette oasis en plein milieu des chapitres 11 et chapitre 12 où Dieu donne un titre si tendre et affectueux à l'endroit de son Fils. Ces deux chapitres, le chapitre 11 et le chapitre 12, fournissent en fait la chronologie du rejet de Jésus. La nation d'Israël rejette Jésus. Mais le point culminant arrive alors que les pharisiens, dans ce même chapitre, et qu'on va voir dans les prochaines semaines, vont jusqu'à blasphémer contre le Saint-Esprit en disant que Jésus fait ses miracles par nul autre que le diable lui-même. Incroyable. C'est le chapitre où les chefs religieux vont blasphémer contre Jésus-Christ, blasphémer contre le Saint-Esprit et rejettent du revers de la main ce cher Sauveur envoyé par Dieu pour sauver Israël. Dieu est tout à fait à l'opposé. alors même qu'on voit la haine des pharisiens qui veulent tuer le Messie. Dieu, dans ce même chapitre où on voit la colère des hommes, l'agressivité contre ce cher Sauveur, Dieu, tout à l'opposé de l'homme, va chérir son serviteur, va lui donner un titre si tendre et si affectueux. Quel opposé! Quel cœur différent! Alors que les pharisiens le critiquent, ont de la haine, Dieu lui montre tant d'affection. Le passage nous présente notre cher Sauveur Jésus-Christ en des termes les plus affectueux. J'aimerais qu'on les regarde un après l'autre. Et ce passage est une citation de Matthieu, l'un des passages les plus longs dans Matthieu de l'Ancien Testament. Une longue citation d'Ésaïe. Tout d'abord, on nous dit que le bien-aimé serviteur de Dieu, c'est le titre affectueux que Dieu lui-même lui a donné, le bien-aimé serviteur de Dieu est condamné par de faux serviteurs. On voit ça au verset 14 et 15. Les pharisiens sortirent, on voit ça aussi au verset 14, les pharisiens sortirent, ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Ils veulent tuer Jésus, ils ont de la colère contre lui, ils ont de la haine contre lui. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Si vous vous rappelez le message que le frère Yannick nous a donné la semaine dernière, cette guérison de cet homme qui c'était le jour du sabbat, et la guérison de cet homme qui avait la main sèche, et alors que c'était le sabbat, Jésus a pris, même si les pharisiens étaient là et regardaient, Jésus a pris le temps de guérir cet homme à la main sèche. Et au lieu de se réjouir, ces chefs religieux, au lieu de se réjouir de ce que cet homme finalement guérissait de cette souffrance, cette douleur, de cette main sèche, au lieu de se réjouir, les pharisiens, au contraire, ont été encore beaucoup plus jaloux, plus agressifs, et c'est là qu'ils sont sortis de ce miracle, de cette guérison, et au lieu d'applaudir le geste et la compassion de Jésus à l'endroit de ce cher homme qui souffrait, deviennent encore plus agressifs, et c'est à ce moment-là qu'ils décident de le faire, de réfléchir sur un moyen de le faire tuer. Mais Jésus répond à ces pharisiens qui le confrontent alors qu'il fait cette guérison en plein le jour du sabbat. Jésus répond qu'il était très approprié de faire du bien le jour du sabbat. Quelle meilleure journée que de faire du bien à quelqu'un qui souffre que le jour du Seigneur. Suite à la guérison, les pharisiens sortent et se consultent sur les moyens de faire périr Jésus-Christ. Avez-vous remarqué ici un petit détail? La décision des pharisiens était déjà prise, ils avaient déjà la colère envers Jésus-Christ. Ce qu'ils font, c'est de trouver un moyen de réfléchir pour essayer de faire un plan, une stratégie pour pincer Jésus et le faire mourir. C'est ça qu'on voit ici. Luc, qui raconte la même histoire, va ajouter que les pharisiens étaient enragés de colère. Marc va ajouter un autre détail très intéressant. Il dit qu'ils étaient tellement en colère qu'ils sont même allés chercher de l'aide auprès des Hérodiens. C'est un groupe que les pharisiens détestaient, mais se sont même joints à ce groupe d'Hérodiens. Hérodiens, ils voulaient, c'était un groupe qui voulait qu'Hérode soit au pouvoir, et les pharisiens détestaient Hérode. Mais les pharisiens se sont joints à ce groupe pour essayer de trouver un plan, mettre sur pied une stratégie pour tuer Jésus-Christ. C'est ce qu'on nous lisons dans Marc 3, 6. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Alors, on arrive au rejet de Jésus-Christ. Voyez-vous, les 9 premiers chapitres de Matthieu, on voit la beauté de Jésus-Christ, on voit ses miracles, ses guérisons, foi après foi, toutes ses œuvres, le ministère de Christ. Rendu au chapitre 10, Jésus envoie ses messagers répandre la bonne nouvelle, mais rendu au chapitre 11 et chapitre 12, nous voyons le rejet final de Jésus-Christ de la part des chefs religieux en Israël. Alors, au chapitre 12, non seulement voyons-nous qu'ils rejettent Jésus, ils vont jusqu'au point de dire que Jésus vient du diable. Les soi-disant protecteurs de la parole de Dieu décident de tuer le serviteur bien-aimé de Dieu. Et Jésus, dans son omniscience, sait exactement ce qui se passe. Jésus, dans son omniscience, sait, connaît ces plans-là, personne n'est venu lui dire, il le sait, et à ce moment-là, décide de se retirer. Et c'est ce que nous voyons au verset 15. Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Imaginez comment c'est triste d'avoir le propre Messie annoncé depuis des siècles, devoir se retirer. Le Sauveur qui se retire. Imaginez. C'est incroyable comment des fois on parle du Seigneur à quelqu'un et on présente l'Évangile à une personne et la personne est là et décide à la fin, alors que tu lui as présenté tout l'amour que Jésus-Christ a pour lui, comment il veut le sauver du jugement à venir qui est l'enfer, veut le prendre et l'emmener au ciel, et lui donner la vie éternelle, pardonner ses fautes et devenir son sauveur. Et la personne te regarde et te dit « Je veux rien savoir. » La personne ne réalise pas que lorsque tu te tournes et tu t'en vas, c'est le moment le plus triste de sa vie. Vrai? Il n'y a rien de plus triste. Moi, ça me déchire le cœur lorsqu'on cogne à une porte et on veut parler du Seigneur et tu as ce joyau entre tes mains, qui est la vérité. Tu veux offrir le salut en Jésus-Christ. Et la personne te regarde et dit, « Parle-moi pas, je veux rien savoir de ça. » Se tourner le dos, encore si c'était juste moi, c'est correct, mais se tourner le dos à ce message si glorieux qu'on peut avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est déchirant, vrai? C'est déchirant, ça. Parce que tu es là puis tu te poses la question, est-ce qu'il va y avoir un autre moment dans la vie de cette personne-là où elle sera exposée à l'Évangile? Verset 15 et 16, continuant en disant, une grande foule le suivit. Et Jésus guérit tous les malades. Petit mot, hein, mais c'est fort. Tous les malades. Jésus guérit tous les malades. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Le bien-aimé serviteur de Dieu, condamné par les faux serviteurs, suit tout de même le plan de Dieu tel qu'il avait été tracé au ciel. Même là, il suit le plan de Dieu. Jésus, savez-vous, aurait pu se fâcher et détruire tous les pharisiens juste là? Connaissant la haine, la colère et le plan que les pharisiens étaient en train de concocter avec les Hérodiens pour le tuer, il aurait pu, sur le champ, Jésus aurait pu, sur le champ, envoyer une légion d'anges pour les détruire. Est-ce que c'est vrai? Une légion d'anges, quand on sait qu'un seul ange dans l'Ancien Testament a détruit 185 000 Assyriens. Un ange! Et Jésus aurait pu envoyer une légion d'anges régler leur cas. Mais Jésus, c'est pas ça qu'il fait. Ce que Jésus fait, il suit le plan de Dieu pour la rédemption et le salut des hommes. Il suit le plan. Il avait la puissance de détruire leur plan, de détruire ce qu'ils étaient en train de faire, de les déjouer. Mais voyez-vous, il est un serviteur soumis au plan de Dieu. Il suivait la volonté de Dieu et ce plan devait suivre son cours jusqu'à la fin, jusqu'à la croix. Ce n'était pas le temps. Alors Jésus se retire. Après des siècles à attendre la venue de Jésus-Christ, Jésus se retire. Et on va voir ça très souvent dans les prochains chapitres, jusqu'au chapitre 21, de fait, du livre de Matthieu. On va voir ce cycle se répéter à maintes et à maintes fois, où Jésus va rentrer dans une ville, prêcher la bonne nouvelle, faire des miracles et des guérisons, guérir tous les malades, et après ça vient l'opposition. Et après ça, Jésus va se retirer. Il rentre dans une autre ville, fait des miracles, guérit tous les malades, prêche l'Évangile, emmène la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, et tranquillement, après les miracles, les guérisons, vient l'opposition, est obligé de quitter la ville. Et on va voir ce cycle se répéter maintes à maintes fois jusqu'au chapitre 21 du livre de Matthieu. Mais Jésus se soumet complètement, sachant ça, au plan de Dieu. Quelle soumission complète et parfaite! C'est le cœur d'un serviteur. Il n'y a jamais eu de serviteur comme lui, comme Jésus-Christ. Il est le serviteur bien-aimé de Dieu qui est accusé par les faux serviteurs. Il suit le plan de Dieu. Et on apprend aussi que ce bien-aimé serviteur de Dieu aime ceux que les autres rejettent. Il aime ceux que les autres rejettent. Verset 15, une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Tous les malades. Réalisez-vous que certaines personnes dans la foule ne croyaient pas en Jésus-Christ? Ce n'était pas tout le monde qui avait la foi, là. Il y a des gens qui ne croyaient pas que Jésus était le Messie du tout. Mais Jésus a pris le temps quand même de guérir. Pourquoi guérir tout le monde? Pourquoi guérir tout le monde sans exception? Voyez-vous, ce que ça veut dire et ce que ça laisse entendre, c'est le cœur de Dieu qui parle ici, qui nous dit une chose précieuse, c'est que nous sommes tous importants dans le cœur de Dieu. Tous. Chacun d'entre nous. Personne n'est laissé pour compte. Voyez-vous? Ça laisse entrevoir le cœur de Dieu pour les gens qui souffrent. Les pharisiens, les chefs religieux n'avaient aucun intérêt pour ceux qui souffraient, aucun intérêt pour ces personnes, pour les rejeter, les démunis, les pécheurs, les malades, les aveugles. Les démunis ne les intéressaient pas. Ceux qui étaient pauvres ne les intéressaient pas. Eux autres, ce qu'ils recherchaient, c'était les gens qui étaient puissants, les réputés, ceux qui étaient riches, ceux qui étaient au pouvoir. Mais les démunis, ça ne les intéressait pas du tout. Alors, à l'inverse, Jésus, lui, cherchait, il recherchait même des démunis. Les personnes souffrantes. Jésus voulait retrouver spécialement ceux qui souffraient. S'il est une chambre que personne ne veut, je vais la prendre. Et Jésus, lui, ce qu'il disait, s'il y a une personne que personne ne veut, moi, je vais la prendre. Voyez-vous? Ça, c'est le cœur du Seigneur. On pense juste au dernier miracle de Jésus-Christ. Pensez-vous que les pharisiens avaient à cœur cet homme à la main sèche? Pas du tout. Vous ne voulez rien savoir de ce gars-là. Jusqu'à temps qu'il réalise qu'à travers ce jeune homme-là, cet homme-là qui avait la main sèche, il pouvait se servir de lui, le manipuler pour essayer d'attraper et piéger Jésus-Christ. Mais voyez-vous, Jésus, lui, a de la compassion. Même s'il savait ça, même s'il était pour être piégé, la compassion de Jésus l'inspirait, le poussait, l'incitait à faire quelque chose pour cet homme-là. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Une très, très profonde question. Vous savez ce qu'était la loi sur les guérisons le jour du sabbat? Ce n'est pas que tu n'avais pas le droit de guérir personne le jour du sabbat. Seules les personnes dont la maladie était une question de vie ou de mort pouvaient être soignées et guéries le jour du sabbat. Soyons honnêtes. Est-ce que ce gars-là, à la main sèche, est-ce que c'était qu'une question de vie ou de mort? Est-ce que ça n'aurait pas pu attendre au lendemain? Honnêtement, là, tant qu'il n'y aurait pas eu de trouble. Il me semble que si Jésus avait juste attendu le lendemain pour guérir, il n'y aurait pas eu de trouble. Bien, je ne sais pas, hein? Les pharisiens avaient tellement de la colère, ils auraient trouvé d'autres choses. Maintenant, la question se pose, pourquoi Jésus n'attend pas le lendemain? La compassion. La compassion. Ça, c'est le cœur de notre Sauveur. Eh oui, Jésus aurait pu attendre le lendemain, mais il n'attend pas le lendemain. Tout de suite, il prend la main de ce gars-là et il va le guérir. Il ne dit pas, écoute, j'ai regardé dans mon agenda, il y a une foule qui s'en vient à 10 heures. Oh, je ne sais pas, peut-être, je peux peut-être trouver un petit trou à mon break à 10h07. J'ai 30 secondes de libre. Tu penses-tu que tu peux arriver, puis te faufiler à travers la foule, puis passer lundi ou dimanche? Jésus n'était pas comme ça. Jésus était plein de compassion. Et Jésus prend le temps parce qu'il l'aime. Voyez? Ce bien-aimé serviteur de Dieu aime ceux que les autres repoussent. Ça, c'est notre Sauveur. Verset 36, Matthieu 9, 36 dit ceci. Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Ça, c'est notre Sauveur. Quand il voit la foule, il a plein de compassion, plein de tendresse. On voit Jésus ailleurs avec les collecteurs de taxes, les prostituées, les personnes désespérées, les démunies, les rejetées de la société. Jésus recherchait ces gens-là. On le voit aussi dans le chapitre 11, un passage que Jean-Sébastien nous a lu tantôt, dans Matthieu 11, 28, où il est dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Tous, démunis, pauvres, tout le monde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Nous ne sommes donc pas surpris de lire ici qu'il les guérit tous, parce que c'est le cœur même de Dieu. Personne n'est laissé pour compte avec le Seigneur. Voyez-vous? Chaque personne a une place choyée dans le cœur de Dieu. Pierre connaissait la compassion du Seigneur. Pierre a vu ces choses-là. Pierre a vu le cœur de Jésus-Christ. Pierre a vu les nombreuses guérisons que le Seigneur a faites. Il a vu son cœur, son caractère. Il a vu sa compassion, sa miséricorde. Alors Pierre pourra dire plus tard dans sa lettre, dans 1 Pierre 5, 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même va prendre soin de vous autres. » Pierre le savait. Pierre l'avait vu. Il dit, « Déchargez-vous sur lui. Allez voir le Seigneur. Ton cœur est troublé? Va au Seigneur. C'est la place à aller. Je l'ai vu. » Pierre l'avait vu. C'est la bonne place à aller. Jésus a montré sa compassion foi après foi, et ultimement, il a tellement de compassion que ultimement, il va régler une fois pour toutes les maladies sur la face de la terre. Quand le Seigneur va revenir, il va établir son royaume, il n'y aura plus de maladies. Le Seigneur va régler ça une fois pour toutes. Il n'y en aura pas de maladie de l'autre côté. Il va enlever la maladie, il va enlever la souffrance, les pleurs, les larmes, la douleur, il va tout enlever ça. Il va régler ça, et ça, c'est la compassion de Dieu. Jésus sent la peine et la souffrance des gens, et quand il est dit que ce sont nos souffrances qu'il a portées, ça parle de son cœur aussi. Jésus, serviteur bien-aimé de Dieu, condamné des faux serviteurs, qui suit le plan de Dieu, s'y soumet, il aime ceux que les autres repoussent. Et là, tout d'un coup, Jésus fait une déclaration assez choc. Verset 16. Il dit, « Il leur recommandera sévèrement de ne pas le faire connaître. » Toujours étrange, hein? Toujours des gens qui viennent me voir me demandent, « Pourquoi Jésus a fait ça? » Dire aux gens, « Dis pas aux autres que je suis le Messie. » Allez pas dire à tout le monde ce que je viens de faire là. Là. Puis il l'a dit sévèrement. Là. Il était fâché, là. Il était sévère. J'ai déjà pris un cours il y a plusieurs années, puis c'était un rabbin de Jérusalem qui venait, c'est pas un chrétien. Et puis il est venu donner un cours à Montréal, puis c'est intéressant ce qu'il a dit. Lui, il a commencé à lire le Nouveau Testament, puis il voyait ces phrases-là à chaque fois que Jésus est en train de reprendre les gens. « Ah, dis pas ça, dis pas que je suis le Messie, puis etc. » Alors, allez pas dire ça aux autres. Alors, le rabbin de Jérusalem a conclu que, dans le fond, Jésus ne voyait pas vraiment le Messie. Il n'arrêtait pas de corriger tout le monde. « Mais non, je ne suis pas le Messie. J'ai l'aide du Messie, mais ce n'est pas moi. » Franchement, est-ce que c'est pour ça que Jésus dit aux gens de ne pas le dire? Non, c'est parce que Jésus ne veut pas provoquer cette émeute, puis il veut se rendre jusqu'à la croix, il veut accomplir son plan, il ne veut pas qu'il ait provoqué encore plus les pharisiens, donc il se retirait. Mais, il y a une raison beaucoup plus profonde que ça. Jésus ne donne aucune explication pourquoi il a dit ça. Avez-vous remarqué? Il ne dit rien à la foule. Ne dites pas aux gens ce que je viens de faire. Il venait de guérir tout le monde. Allez dire ça à une foule. N'allez pas dire ça à personne. Il y a une foule. Jésus ne donne pas l'explication. Mais Matthieu, lui qui écrit son livre plus tard, prend le temps de nous donner les explications. Il dit, il va y avoir bien des questions ici. Et c'est inspiré du Saint-Esprit que Matthieu prend le temps de nous donner l'explication pour comprendre ce qui est en train de se passer. D'accord? Et c'est ce qu'il dit. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'il va dire. Matthieu nous dit que la réaction et la déclaration de Jésus sont en fait un accomplissement d'une prophétie qui a été donnée dans le livre d'Ésaïe. Eh oui, regardez bien, Matthieu le dit. Verset 17, « Afin que s'accomplisse. » Alors, Jésus a dit à la foule, « N'allez pas faire connaître à tout le monde ce qui se passe ici. » Et Matthieu, lui, d'ajouter, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ce petit détail, « Afin que s'accomplisse. » En d'autres mots, Matthieu interprète les paroles de Jésus-Christ. Et il dit, « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. » Et là, tout d'un coup, Matthieu va citer, guidé par le Saint-Esprit. Et c'est magnifique ce qui se passe ici. Matthieu cite souvent l'Ancien Testament, et cette fois-ci, c'est la plus longue citation de l'Ancien Testament. Matthieu va connecter une prophétie qui a été donnée des centaines d'années avant sur la venue du Messie. Et il va dire, voici, Jésus est en train d'accomplir ça. Jésus est ce Messie-là. Et j'aimerais vous lire cette citation qui provient d'un livre de l'Ancien Testament qui est Ésaïe. Alors, j'espère que vous êtes dans votre Bible pour suivre avec moi, parce qu'on va faire ressortir certains détails. Verset 18, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. » Regardez bien le verset 19, à la lumière de ce qu'on a vu tantôt, d'accord? Avec ce qui se passe, là. Verset 19, « Le Messie qui vient, il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. » L'image ici, c'est que tu es dans ta maison, il y a quelqu'un qui passe dans la rue, et tu ne l'entends pas parler. Dans ce temps-là, croyez-moi, il n'y avait pas du R35 dans les murs. D'accord? Pas de fenêtre. Ça n'existait pas, là. C'était ouvert. Alors, le Messie qui vient ne parlera tellement pas fort. Son ministère sera tellement doux, modeste, silencieux, que même si tu étais dans ta maison, et tu l'entendais passer, parler aux gens, tu ne l'entendrais même pas. Il ne brisera point le roseau cassé. Un roseau, c'est pas gros. Il est cassé, là. Si tu l'accroches en passant, c'est évident que ça tombe. Qu'est-ce que tu faisais avec un roseau cassé? Tu le jettes. Pas utile. Ben, des fois, on faisait des flûtes avec ça, mais avec le temps, ça s'usait, puis on le jetait aux poubelles. Alors, éventuellement, ça tombait aux poubelles. Mais le genre de ministère que le Messie va avoir va faire en sorte qu'il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point le lumignon qui fume. Tout petit. C'est une petite flamme qui est en train de s'éteindre. Et le Messie, lui, ne s'en débarrassera pas. Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Et le mot nation ici est comme il, l'idée c'est les non-juifs aussi. Il est évident que certaines personnes pouvaient croire que si Jésus est le Messie, pourquoi ne se défend-il pas contre ses adversaires? Ouais? Pourquoi subir tout ce qu'il est en train de subir? Le rejet, l'humiliation, les nombreuses critiques. D'ailleurs, le même rabbin dont je vous ai parlé tantôt, avec qui j'ai échangé plusieurs fois, on est allé prendre des cafés ensemble au restaurant et tout ça, m'a déjà dit ceci. Moi, Normand, il dit, honnêtement, j'ai beaucoup de misère. J'ai de la misère avec un aspect de la vie de ton Jésus. Comment ça se fait que Dieu l'a laissé mourir à la croix? S'il est le Messie, comment ça se fait que Dieu l'a laissé souffrir comme ça? C'est incroyable, pareil, hein? C'est un rabbin, là, c'est un docteur de la loi, un maître de l'Ancien Testament. Il enseigne des jeunes rabbins là, à Jérusalem. Comment ça se fait que ton Messie, Normand, a souffert et Dieu l'a laissé souffrir? Ah, ça fait de la peine, hein? Quand on connaît, oui, le voile, un voile, il y a un voile. Matthieu veut aider à nous aider à comprendre. Si Jésus est le Messie, pourquoi ne se défend-il pas? N'est-il pas le fils de David qui doit s'asseoir sur le trône? N'est-il pas celui qui doit relever Jérusalem, comme dans le temps, avec la gloire, avec David, un empire tellement puissant qui s'étendait? N'est-il pas le Messie qui doit soumettre les nations à sa volonté? Jésus ne peut pas être le Messie. Regardez-le! Au lieu de se défendre et de répondre aux attaques des pharisiens, il se retire. Le Messie ne ferait pas ça. Il dit même à la foule de se taire, pas parler de lui. C'est pas le Messie, ça. C'est pas le sauveur glorieux qu'on attend. Alors, Matthieu nous aide. des fois, si on pouvait peut-être tirer cette conclusion-là, Matthieu nous aide en citant le Ésaïe, chapitre 42. Matthieu, en citant Ésaïe 42, Matthieu est non seulement en train de nous dire que Jésus est bel et bien le Messie, mais il est exactement le Messie tel que prédit dans le livre d'Ésaïe. C'est lui qu'on attend. Verset 19, « Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra pas le lumignon qui fume. » Voyez-vous, Matthieu interprète le ministère de guérison de Jésus non comme étant le Fils de Dieu, le fils de David, ce grand Messie. Mais Matthieu, en regardant le genre de ministère de guérison que Jésus est en train d'entretenir et de poursuivre, il en parle en termes de serviteur souffrant de Dieu. Ce passage met en contraste la haine des pharisiens du verset 14 avec la tranquillité et la douceur de Jésus, n'est-ce pas? En citant Ésaïe 42, Matthieu est en train de nous dire que malgré le plan de tuer Jésus, il n'agira pas avec violence. Voyez-vous? Le Sauveur n'agira pas avec violence, malgré les plans pour le tuer. Le Sauveur, le Messie, ne répondra pas. Même si Matthieu nous a présenté Jésus jusqu'ici comme étant le Messie, le fils de David, et ça a commencé comme on vous l'avait prédit, comme on vous l'avait annoncé, dans le premier chapitre de Matthieu, déjà avec la généalogie, déjà Matthieu établit le fait que Jésus est le fils de David, qui peut avoir le trône de David. Malgré ça, malgré qu'il nous a présenté Jésus comme étant le fils de David, le roi, il vient nous rappeler en citant Ésaïe 42 que Jésus est aussi le serviteur souffrant des prophéties de l'Ancien Testament et surtout dans les prophètes Ésaïe. Le prophète Ésaïe a donné plusieurs prophéties sur le Messie qui venait. D'ailleurs, on trouve plus de prophéties dans le livre d'Ésaïe sur la venue du Messie que dans tous les autres livres de l'Ancien Testament à part du livre des Psaumes. D'ailleurs, le but du livre d'Ésaïe est de montrer que Dieu envoie son Messie et qu'il est le sauveur ultime des enfants de Dieu. Le livre est un peu une mini-Bible. Le livre d'Ésaïe, c'est 66 chapitres, comme la Bible, 66 livres. C'est une mini-Bible, et cette mini-Bible, ce livre d'Ésaïe, est un très long livre, se divise en trois parties. Et vous allez voir, je vais vous donner les thèmes des trois parties. Les trois parties parlent du sauveur, le sauveur qui vient. Ça parle du Messie. C'est le thème récurrent qui ressort du livre d'Ésaïe. Premièrement, dans les 35 premiers chapitres du livre d'Ésaïe, le thème, c'est Judas, son fardeau et son ultime sauveur. Vous voyez? Chapitre 36 à 39 a pour thème la bénédiction de Judas, le sauveur. Et les derniers 26 versets, les chapitres 40 à 66, ce dernier gros bloc du livre d'Ésaïe, on met en contraste l'ancien serviteur qui devait être Israël. Donc, on parle de l'insuffisance du premier serviteur qui est Israël et la suffisance du second serviteur qui sera le Messie. Du début à la fin du livre d'Ésaïe, on parle du Messie qui vient, le Sauveur qui vient. Et dans le dernier bloc du livre d'Ésaïe, à partir du chapitre 40, et n'oublions pas, Matthieu cite 42, on va y revenir, de 40 à 66, on parle de nombreux passages qui parlent d'un serviteur souffrant, et on va même donner ce magnifique titre au Messie qui vient, et on l'appelle serviteur. Serviteur. Le serviteur souffrant, c'est de cette façon qu'on va appeler le Messie dans le livre d'Ésaïe. On apprend plusieurs choses dans le livre d'Ésaïe. On apprend que le Messie sera Dieu fait homme. On apprend ça avec Ésaïe 7, lorsqu'on appelle le Sauveur qui s'en vient Emmanuel, Dieu avec nous. On apprend qu'il va naître d'une vierge dans Ésaïe 7. On apprend dans Ésaïe 9 que le Messie va apporter beaucoup de joie, une joie abondante, parce qu'il apporte la lumière, il apporte la liberté, la victoire. Il est un don de Dieu. Il est le roi des rois, il est l'admirable, il est le conseiller, le Dieu puissant. Et il vient pour établir un jour son royaume. Ésaïe nous apprend aussi que le Messie aura un précurseur, Jean-Baptiste, Ésaïe 40. Et à partir du chapitre 42 d'Ésaïe, Ça commence là. On commence une série de prophéties et on les appelle les passages du serviteur souffrant. Le premier passage, première prophétie qui parle que le Messie sera un serviteur souffrant est justement chapitre 42 que Matthieu cite. N'est-ce pas intéressant? On connaît Isaïe 53, vrai? Il va prendre sur lui nos péchés. On parle de ce sacrifice, cette brebis à faire en sacrifice. On connaît ces passages clés, ces passages qui parlent des souffrances du Messie qui vient. On connaît moins Isaïe 42. Matthieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, plonge à l'intérieur de ses nombreux chapitres, chapitre 40 à 66, et retire le chapitre 42 et l'applique pour interpréter le genre de ministère de guérison que Jésus est en train d'entretenir. D'ailleurs, c'est l'une des expressions préférées d'Ésaïe pour décrire le Messie, le serviteur. Matthieu, ce qu'il est en train de nous dire, en citant Ésaïe 42, ce que Matthieu est en train de faire, c'est que Matthieu est en train de nous dire que Jésus agit comme le serviteur souffrant du livre d'Ésaïe. Verset 20, il a dit, « Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point le lumignon qui fume. Le serviteur bien-aimé de Dieu, Jésus-Christ, n'avancera pas son ministère avec rudesse. » C'est un ministère de guérison. Il ne brise pas le roseau cassé. Il agit et il agira avec délicatesse, avec bonté puis avec compassion. C'est ça qu'Ésaïe est en train de prédire. Jésus agira avec tendresse, mais même si c'est avec tendresse, même s'il ne se vengera pas de ses ennemis qui veulent le tuer, même que c'est de cette façon, avec douceur et délicatesse, modestie, qu'il va réaliser son ministère et guérir les gens qui souffrent, malgré ça, il va atteindre le but et la vision de Dieu de sauver les pécheurs. Il va arriver. Et c'est ce que le verset nous dit. Il fera, même s'il va agir avec tristesse, avec tendresse, il fera triompher la justice et le salut va se trouver. Il va fournir le salut. Verset 20, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espérons en lui. Même Longueuil. Longueuil peut espérer en lui pour son salut parce qu'il a accompli la justice à la croix, malgré un ministère tendre, presque silencieux. Le ministère de Jésus sera tellement doux et compatissant que le faible ne sera pas écrasé, mais il sera même amené au triomphe avec la justice de Dieu. En d'autres mots, loin de les laisser briser, écraser, c'est ce que ça veut dire, qu'il ne brisera pas le roseau cassé ou brisé. Loin de les laisser briser, écraser, il les mènera à la victoire. Alors, malgré l'opposition et la violence des pharisiens, Jésus réussira à emmener le salut aux nations et il le fera avec douceur. C'est ça le message ici qui nous est donné. Voyez-vous, si Jésus ne brise pas le roseau cassé, s'il aime les rejeter et les sauve avec tendresse, il ne les laisse pas juste là briser, il les relève. Et c'est ça qui est magnifique. Jésus prend la personne qui est fragile comme le roseau brisé. Il prend la personne qui est comme le lumignon qui fume à peine près de s'éteindre, qui est en train de perdre courage et la reprend et lui donne vie jusqu'à ce qu'elle puisse illuminer tout un foyer. Et c'est ça qui arrive hein, lorsqu'une personne qui est un pécheur, parfois des personnes méchantes, violentes, qui viennent à Christ, leur cœur change complètement et deviennent un rayon de soleil chez eux. C'est vrai? C'est ce que Jésus fait avec chacun de nous. Il prend la vie qui est brisée et dont personne ne veut et la rebâtit, il la fortifie. Il va prendre le collecteur de taxes, les prostituées, les pécheurs et il va les transformer en adorateurs de Dieu. Amen. C'est le genre de sauveur qu'il est tout à fait contraire aux chefs religieux de l'époque, notamment les pharisiens. Je ne sais pas si vous avez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme sauveur personnel. J'espère que oui, mais bon sang, ne refusez pas. Fermez pas la porte de votre cœur à un sauveur si tendre et si glorieux qui a tout fait pour vous sauver, pour que vous puissiez connaître le triomphe et la victoire, le pardon de vos péchés. Et si tu es un enfant de Dieu, nous avons tous besoin de suivre l'exemple du Seigneur Jésus, vrai? Le Seigneur nous appelle à être des serviteurs comme lui. Le Seigneur nous appelle à être tendres et à prendre ces personnes qui sont repoussées de notre société et à les aimer. Des gens peut-être que personne ne veut savoir. Un enfant peut-être que personne, avec qui personne ne veut aller dîner. Le Seigneur nous appelle à être cette bénédiction et montrer cette tendresse, cette compassion envers les gens du dehors. Chacun de nous, nous sommes appelés à nous soucier des gens qui souffrent et à nous intéresser à eux, à les aimer, à prendre soin d'eux. Et le faire avec l'Esprit du Seigneur, un esprit doux, humble, sachant que le Sauveur aura la victoire et sauvera des âmes. J'ai tellement touché hier lorsque j'ai donné un cours de prédication à un groupe de pasteurs à Montréal, vendredi soir et hier. Et puis Jean-Pierre est là, Jean-Pierre Gagné, ton frère, le frère de Jean-Paul. Et j'aime tellement entendre ce gars-là parler dans la classe. Il me racontait un peu ce qu'il était en train de faire à Saint-Césaire. Il a commencé une église à Saint-Césaire. Puis, beau témoignage, vraiment, à l'église. Déjà, ça fait connaître parce qu'il y avait même un grand événement à la ville. Ce n'est pas une grosse ville. Alors, il y avait un événement organisé par les responsables de la ville et tout ça. Et les chrétiens sont tous allés aider pour démonter le stage après l'événement, puis ils ont travaillé jusqu'à minuit samedi soir. Jean-Pierre prêchait le lendemain, dimanche matin. Ils sont allés aider toute la gang, aider, puis servir, tellement que là, les gens de la ville les connaissent, les saluent, là, ils sont respectés. T'sais. Mais il me racontait un événement qui s'est passé dernièrement, j'ai trouvé tellement touchant. Il reste, évidemment, sur une rue, puis il y a quatre enfants. Cinq garçons à la maison. Hey, c'est tout un contrat, ça, hein? J'en savais quelque chose, vous autres, hein? Hey, c'est tout un contrat. C'est très plaisant, il y a beaucoup de vie, puis tout ça, c'est super. Mais là, Jean-Pierre, il y a un petit gars dans son coin qui est très jeune. Et Jean-Pierre a été très gentil en me disant, ça, c'est évident. Ça va se ramasser, ça va se trouver à la DPJ un jour. Tellement agressif. Écoutez, l'autre jour, ce jeune homme-là, je ne me souviens pas de l'âge, très jeune, il courait après d'autres gars dans la rue avec un bat de baseball en fer. Agressif, tellement violent. Il crie tout le temps. Il est agressif, beaucoup de colère. Sa mère est monoparentale, puis elle est rarement là. Il était rendu 7h30 le soir, puis il n'avait pas encore soupé. Sa mère n'était pas encore revenue. Et il se fait garder par sa sœur, qui n'est pas très, très grande non plus. Pas abandonné, mais ça ne va pas bien dans ce foyer-là. C'est évident, Jean-Pierre les connaît un peu. Il y a des monoparentales qui prennent tellement bien soin de leur enfant. C'est super. C'est tout à leur honneur. Il y en a ici. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne et vous aide. Mais c'est évident que dans ce cas-ci, c'est tout autre. Ma réaction à moi première aurait été, mon Dieu, ce gars-là, il est violent, il crie, puis il criait dans la rue, puis il courait, puis tu sais, il est reconnu pour battre les gars autour. T'sais. Moi, tout de suite, ma réaction, je suis père, j'aurais dit tout de suite, hey, les gars, vous sortez pas, là. Tu sais, reste à la maison, puis tout, on va tu sais, protecteur, là, tu veux protéger, tu sais, pas Jean-Pierre. Savez-vous ce que Jean-Pierre a fait, là? T'es allé le chercher. Puis là, il criait, puis tout ça, puis t'es allé le chercher. Il dit, viens à la maison, viens chez nous. Puis il a parlé à ses petits gars avant, il a parlé à ses enfants, à Jean-Pierre, et puis il a dit, là, les amis, là, je le sais, ce gars-là, il est violent, il va rentrer à la maison, je le sais, mais j'aimerais ça qu'on puisse l'aimer comme le Seigneur l'aime. C'est fort, hein? Il est allé chercher le petit gars, rentre dans la maison, puis il criait dans la maison. Puis les enfants ne sont pas élevés comme ça, là. Alors tu te fais violence même à la façon que tu élèves tes enfants. Là. Il y a un prix que tu payes, là, à quelque part. Mais il a pris cet enfant-là, il l'a accueilli dans la maison, puis il a commencé à lui montrer de l'amour, comme le Seigneur l'aurait fait. Le Seigneur nous appelle à agir exactement comme ça dans notre quartier, dans notre milieu, au milieu de travail. Il y a peut-être quelqu'un à ton travail que tu as tellement de misère à sentir, agressif, toujours en colère, marabout, injuste. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça à ton bureau qui travaille? Il y en a toujours un ou deux. Hein? Oui. Il y en a toujours. Hein? Le Seigneur te demande de l'aimer comme personne ne va l'aimer. S'il est une chambre que personne ne veut, donne-moi là, je vais apprendre. S'il y a une personne dans ma compagnie que personne ne veut parler, donne-moi la joie de lui parler. S'il y a un enfant avec qui personne ne veut aller dîner, emmène-moi-le. Moi, je vais aller dîner. Je vais passer du temps avec lui. Prie, Seigneur, cette semaine. Je suis certain que le Seigneur veut que tu étendes ta main sur une personne dans ton entourage. Et peut-être cette personne est pas mal plus proche que tu penses. Montre-lui un geste concret d'amour. Veux-tu faire ça cette semaine? Pense-y, tu vas voir, je suis certain que le Seigneur a une liste de noms à te donner. Mais prends-en un cette semaine, OK? Pense-y, là. Prends quelques secondes, on va prier ensemble. Pense-y, quelle est la personne cette semaine à qui je pourrais démontrer beaucoup d'amour? D'accord? Une personne que pas grand monde aime. Peut-être c'est une personne qui n'est pas très aimable. Peut-être c'est même quelqu'un qui t'a fait du mal, toi. Peut-être même a critiqué dans ton dos. Tu veux-tu étendre ta main et toucher la vie de ce jeune homme-là, de cette jeune femme-là? Prions, Seigneur, d'accord? Seigneur notre Dieu, nous sommes si touchés à voir que tu as un ministère tellement délicat. Moi-même, lorsque tu es venu toucher ma propre vie, Seigneur, j'étais comme un roseau brisé. Je me cherchais, Seigneur, je n'avais pas de but dans la vie, je ne comprenais pas pourquoi j'existais, je n'avais pas de réponse à mes questions. Et malgré qu'à cette époque, je faisais de l'argent, j'avais tout ce qu'on pouvait espérer, toi, Seigneur, tu as vu mon cœur et tu as vu le vide que j'éprouvais dans mon cœur. Tu as vu, Seigneur, comment je souffrais en dedans de moi, et que même si j'avais tout ce qu'une personne pouvait espérer, toi, tu ne t'es pas arrêté à ça, à ma façade, Seigneur. Tu as vu ma souffrance dans mon cœur. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui a besoin d'être touché par toi. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici, Seigneur, qui se sent comme un roseau brisé, fragile, prêt de tout lâcher et de lancer la serviette. On te prie, Seigneur, que tu puisses entrer dans la vie de cette personne et la relever, lui donner de la vie, de l'espoir. Et nous te prions, Seigneur, pour chacun d'entre nous qui avons été touchés par cette compassion, ta compassion, Seigneur, que cette semaine, nous puissions délibérément choisir quelqu'un qui est peut-être repoussé des autres, et que nous puissions aller toucher la vie de cette personne et lui montrer ton affection et ton amour. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.